الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes arrivés au quatrième chapitre. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة. وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحو في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. Le quatrième chapitre, je crois, concerne le siwak et les sunan de la fitra, c'est-à-dire la nature originelle ou la sainte nature. On peut l'appeler comme ça ou comme ça. Et le siwak consiste à utiliser un bout de bois ou autre sur les dents et les gencives afin d'enlever ce qui reste accroché comme nourriture ou mauvaise odeur. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on utilise, c'est ça le siwak. Le siwak, c'est le fait de se brosser les dents avec un morceau de bois. Al-mas'alatul oula hukmuhu. Le premier point, son jugement. Al-siwaku masnounun fi jami' al-awqati hatta sa'imu law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidhalik. سواء كان في أول كان أول النهار أو آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر وحديث وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. Donc il est permis d'utiliser le siwak en tout temps. Même pour le jeûneur, que ce soit, il n'y a pas de mal à ce qu'il utilise, que ce soit en début de journée ou en fin de journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à son utilisation de manière générale, sans la restreindre à un moment spécifique. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas restreint à un moment spécifique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté de manière authentique, le siwak purifie la bouche et satisfait le Seigneur. Et il a été rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli sala. » Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la jeûne, je leur aurais imposé le siwak avec chaque prière. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahmatullah alayhi. Al-mas'alatu thaniya, mata yata'akkad. Wa yata'akkadu, inda al-wudu'i, wa inda al-intibahi min al-nawmi, wa inda taghayyuri raihat al-fam, wa inda qira'at al-Qur'an, wa inda al-salah, wa kada, inda dukhul al-masjidi wal-manzil. Li hadith al-miqdam ibn Shureyh, عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. Donc ici le deuxième point, c'est quand est-il recommandé d'utiliser le siwak? Le siwak est particulièrement recommandé lors des ablutions. Et ici, il faut savoir que les quatre madhahib sont d'accord pour dire que le fait d'utiliser le siwak pendant les ablutions est une sunna. Et il est également recommandé de l'utiliser au réveil ou en cas de changement de l'odeur de la bouche, lors de la récitation du Qur'an et avant la prière. Il est également recommandé en entrant dans la mosquée de l'utiliser lorsqu'on rentre à la mosquée ou chez soi. Comme il a été rapporté de Al-Miqdam ibn Shureyh, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la première chose qu'il faisait lorsqu'il rentrait chez lui. Elle a dit il utilisait son siwak sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi recommandé après une longue période de silence, lorsque la personne Yanni n'a pas parlé longtemps, il lui est recommandé d'utiliser le siwak, ou lorsque les dents jaunissent, conformément au hadith que nous avons mentionné précédemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, se nettoyait la bouche avec le siwak. Et le musulman est enjoint lors de l'adoration et lorsqu'il se reproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est enjoint d'être dans l'état le plus propre possible. Ensuite, il y a une mas'ala qu'on peut mentionner ici, je crois qu'il n'est pas dans le livre, c'est est-ce qu'il est détestable ou non pour une personne de se nettoyer les dents, donc avec le siwak devant les gens. Et cette mas'ala, sincèrement, elle est importante pour ceux, par exemple, qui sont à la mosquée. Car comme on a dit, c'est une sunna avant la prière d'utiliser le siwak, avant le takbirat al-ihram, comme ils disent les ulama, avant de faire le takbirat al-ihram, que ce soit l'imam ou ceux qui prient derrière lui, il aurait recommandé d'utiliser le siwak. Et selon l'avis de la majorité des savants, cela n'est pas détestable. Et c'est l'avis prépondérant, bi'idnillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nettoyait les dents devant les gens. Et il a dit, si je ne craignais pas d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur ordonnais d'utiliser le siwak avant chaque prière. C'est-à-dire lors des prières obligatoires. Il est donc permis de se nettoyer les dents avec le siwak devant les gens. C'est pourquoi l'opinion des Malikites ici n'est pas l'avis qui est prépondérant. Parce que le Malikiya, eux, ils voient que c'est détestable d'utiliser le siwak devant les gens. Et l'avis correct est celui de la majorité des savants, c'est-à-dire qu'il est permis d'utiliser le siwak devant les gens et il n'y a aucun mal à faire cela. Al-mas'atu thalitha bima yakoun. C'est-à-dire le troisième point, avec quoi se brosse-t-on les dents? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on utilise pour se brosser les dents? Yusannu an yakuna at-tasawwuku bi'udin ratbin la yatafattat wa la yajrahu al-fam. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yastaku bi'udin arak wa lahu an yatasawwaka bi yadihi al-yumna aw al-yusra fal-amru fi hadha wasi'. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأ هو التسوق بأصبعه كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة أو كما روى ذلك علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Ici, ils nous disent donc qu'il est recommandé de se nettoyer les dents avec un bâton tendre qui ne s'effrite pas et qui ne blesse pas la bouche ou les gencives. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nettoyait les dents avec un bâton qu'on appelle un bâton, un morceau de bois qu'on appelle l'arak. Et il est permis de se nettoyer les dents avec la main droite ou la main gauche. Donc ici, selon l'avis de l'auteur, il est permis de se nettoyer les dents avec la droite comme la gauche, car il y a largesse dans ce sujet. Et si l'on ne possède pas de bâton pour se nettoyer les dents, au moment des ablutions, il est permis d'utiliser son doigt. Comme cela a été rapporté de Ali ibn Abi Talibin concernant la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Yahya Cheikh Suleyman Ar-Ruhayli Hafidhahullah dit dans son explication de Dalil al-Talib, il nous dit « L'avis prépondérant est qu'il est préférable pour la personne d'utiliser un bâton. » Et en particulier un bâton d'arak, car cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, s'il ne le fait pas et qu'il ne trouve pas de bâton d'arak, surtout en cas de nécessité, il obtient tout de même la récompense du siwak s'il utilise autre chose que le siwak d'arak, donc n'importe quel autre bout de bois. Car le siwak a une sagesse qui a été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le siwak purifie la bouche. Donc c'est pour ça, à la base, qu'on utilise le siwak, c'est parce qu'il purifie la bouche. Donc en gros, c'est ma'koul al-ma'na, comme ils disent les ulama. C'est pas une adoration en elle-même, dans le sens où on est obligé d'utiliser ce bois-là pour que le fait qu'on ait la récompense d'avoir utilisé le siwak. Donc le but ici d'utiliser le siwak, c'est de quoi de se purifier. Et donc, quelle est donc la sagesse du siwak? C'est de purifier la bouche des impuretés. Ainsi, lorsque cette sagesse-là est atteinte, donc que ce soit avec un bâton d'arak ou que ce soit avec, par exemple, une brosse à dents avec du dentifrice ou autre, la personne obtient la récompense du siwak. Mais il est préférable que cela soit avec un bâton d'arak. Ça veut dire quoi, Yahikhwa? Ça veut dire que si maintenant la personne rentre chez elle, okay, elle a un siwak et elle a autre chose qu'un siwak, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va utiliser le siwak. Pourquoi? Parce que là, il l'a entre ses mains, donc il va utiliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Et si une personne utilise son doigt, n'ayant pas de siwak avec elle au moment de faire el-madmada, lors des ablutions, si par exemple, maintenant la personne elle veut accomplir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des ablutions, et qu'avant de mettre l'eau dans sa bouche, il utilise le siwak, alors à ce moment-là, il n'a pas de siwak, il peut utiliser son doigt. Et il obtient donc la récompense du siwak. Et utiliser une brosse à dents et du dentifrice permet également d'obtenir la récompense du siwak. Mais le mieux et le plus recommandé et le plus complet est d'utiliser un bâton. Et en particulier le bâton d'arak. Et ceci est l'avis prépondérant bi'idnillah dans ce sujet-là. Quant à ce qui a été rapporté concernant l'utilisation des doigts pour le siwak, cela est faible. Ce qui a été rapporté de Ali radiallahu anhu, c'est faible. Même si cela a été authentifié par Ibn Hajar, ceci dit, cela est faible. Donc il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les doigts suffisent pour le siwak, donc cela est faible. De même, ce qui a été rapporté de Ali radiallahu anhu, selon lequel il aurait fait ses ablutions, puis après s'être rincé la bouche, il aurait introduit ses doigts dans sa bouche en disant « C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. » Et cela a été rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Hajar, mais comme on a mentionné, cela est faible. Donc le cheikh nous dit ensuite « L'important reste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le siwak purifie la bouche et il satisfait le Seigneur. » Ainsi, lorsque le nettoyage de la bouche est effectué pour enlever les impuretés, cela équivaut à accomplir. C'est comme s'il avait utilisé un bâton et il obtient la même récompense que celui qui utilise celui-ci. Mais il est préférable que cela se fasse avec un bâton. Naam. Et on posa la question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, est-ce que la brosse à dents remplace le siwak? Et celui qui utilise la brosse à dents avec l'intention de se purifier, la récompense est-elle équivalente au siwak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'utiliser? Le cheikh a répondu, rahmatullah alayh, oui, la brosse à dents remplace le siwak. Plutôt, elle nettoie et purifie plus que le siwak. Si la personne l'utilise, la sunna aura certes été réalisée, car ce n'est pas la manière qu'il faut prendre en considération, mais plutôt le résultat. Donc ici, le résultat, c'est quoi? Le fait que la bouche, walillah, alhamdulillah, a été purifiée. Ensuite, doit-on utiliser la main droite ou la main gauche pour se nettoyer les dents avec le siwak? Et ça, c'est une mas'ala. Ici, l'auteur nous a dit quoi? On peut utiliser la droite ou la gauche. Ici, on va manger... Qu'est-ce qu'on on est en train de mentionner ici, Aïkhoa? C'est plus... Qu'est-ce qui est meilleur? Ça ne veut pas dire que celui qui utilise la gauche ou celui qui utilise que la droite aura un péché. Non. Ici, on est en train de parler de qu'est-ce qui est préférable. Le Cheikh Souleymane, dans son explication de Dalil Talib, nous dit « Certains savants estiment qu'il est recommandé d'utiliser la main gauche pour se nettoyer les dents, car cela rentre dans le fait de retirer les impuretés. » Donc, comme on sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la droite dans tout ce qui est adoration, purification et autres, comme cela a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, qu'on va voir maintenant. Et pour autre chose, pour enlever les impuretés ou autres, il utilisait quoi? La gauche. Donc la main gauche. Donc la main gauche ici est utilisée pour enlever ce qui est nuisible. Et d'autres savants disent qu'il est préférable d'utiliser la main droite, car cela fait partie de la purification. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait utiliser la main droite pour ses ablutions et dans toutes ses affaires. Comme cela a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, elle dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires. Et ni quand il mettait ses chaussures, quand il se coiffait ou dans sa purification. » Ainsi, il serait recommandé de se nettoyer les dents avec la main droite. Et il a été rapporté un avis, et c'est celui de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyata, rahimahullah. Et l'avis, donc, c'est que le siwak est utilisé pour enlever les impuretés visibles dans la bouche. Il convient d'utiliser pour cela la main gauche. Mais si on l'utilise de manière absolue, c'est-à-dire pour les adorations ou autres, alors on utilise la main droite. Donc par exemple, si la personne, après manger, elle va utiliser quoi? Elle va utiliser la main gauche. Et par exemple, si avant la prière, elle va utiliser la main droite. Et cet avis est considéré comme bon et judicieux. Et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh Souleyman, hafidhahullah ta'ala. Et il dit ensuite, pour terminer, soit on dit qu'il est préférable d'utiliser la main droite dans tous les cas, car cela fait partie de la purification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime effectuer avec la main droite, soit on applique la distinction qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire qu'il utilise la gauche pour enlever les impuretés visibles ou bien les choses nuisibles, et il utilise la droite de manière absolue ou pour ce qui est lié à quoi? Aux adorations. المسألة الرابعة فوائد السواك. Donc le quatrième point, c'est les bénéfices du siwak. Il nous dit ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا ومرضاة للرب في الآخرة فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم من الفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. Il nous dit ici, l'auteur, parmi les points, les bénéfices, parmi les points les plus importants qui a été mentionné concernant les bénéfices du siwak et de l'utilisation du siwak, c'est le hadith que nous avons mentionné. C'est-à-dire qu'il purifie la bouche et il satisfait le Seigneur. Et il convient aux musulmans de veiller à appliquer cette sunna et de ne pas la délaisser. Car elle comporte de nombreux bienfaits. Et il se peut que certains musulmans passent une période, ils passent une période de temps, comme un mois ou deux, sans utiliser le siwak. Que ce soit par paresse ou par ignorance. Et ceci est un manque, et ceux qui appliquent cela, il manque une grande récompense et de nombreux bienfaits en raison du délaissement de l'utilisation du siwak et de cette sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu à celle-ci, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il rende pratiquement obligatoire à sa communauté l'utilisation de siwak, du siwak, s'il n'avait pas craint la difficulté pour eux. Et il a été également mentionné d'autres bienfaits du siwak, comme cela a été mentionné par Ibn al-Qayyim. Il a mentionné que parmi les mérites du siwak et les bénéfices, c'est qu'il purifie la bouche, il satisfait le Seigneur, il augmente l'éloquence de l'homme, il renforce les gencives, il assainit l'estomac, il enlève le jaunâtre des dents, il parfume la bouche, il stoppe les glaires, il facilite et renforce la mémorisation et il dénoue le nœud de la langue. Ça, c'est les bénéfices qui ont été rapportés concernant l'utilisation du siwak. Al-mas'alatu al-khamisatu sunanul fitra. Le cinquième point, les sunan relatives à la sainte nature. Il nous dit ici, l'auteur, وتسمى أيضا خصال الفطرة وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة أو أكمل وأكمل صورة. Les sunan de la, donc de la sainte nature, elles sont appelées également khisal ou fitra, les caractéristiques de la fitra, c'est-à-dire de la nature originelle ou de la sainte nature. Car celui qui les accomplit se conforme à la nature originelle sur laquelle Allah les a créé les êtres humains et qu'il a aimé pour eux, afin qu'ils soient dans la meilleure apparence et sous la forme la plus complète. Et le hadith a été rapporté par Abi Hurayrah radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khamsun min al-fitrati, al-istihdadu wal-khitanu wa qassu al-sharibi wa natfu al-ibti wa taqlimu al-adhafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cinq choses font partie de la fitra: se raser les poils pubiens, la circoncision, tailler la moustache, épiler les aisselles et couper les ongles. Ce sont cinq choses qui font partie de la nature sainte, la nature originelle. Al-awwal al-istihdad wa huwa halq al-ana wa hiya ash-sha'r an-nabitu hawla al-farj summiya bidhalika al-isti'mal al-hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi jamal wa nadhafatun wa yumkinu izalatuhu bighayri al-halq kal-muzillat. Le premier, donc la première caractéristique, c'est le fait de raser les poils qui poussent autour des parties intimes. Ça, c'est la première chose, la première caractéristique qui fait partie de la sunan al-fitra. Et l'istihdad, c'est le fait de raser donc les poils pubiens. Et il est nommé ainsi l'istihdad en raison de l'utilisation d'un outil métallique. À la base, donc comme le rasoir à notre époque. Et le fait de les enlever est une question de beauté et de propreté. Donc c'est un embellissement, walillah alhamd, et une propreté. Et il était possible de les enlever avec d'autres choses que le rasage, tels que le rasoir électrique et autres. الثاني الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة وهذا في حق الذكر. Le deuxième, c'est la circoncision, et c'est le fait d'enlever la peau qui recouvre donc le gland, le prépuce, donc le jusqu'à ce que le gland soit découvert, et cela concerne l'homme. Et la sagesse derrière cela, ya ikhwa, c'est de purifier le pénis des impuretés qui s'accumulent dans le prépuce. Ça, c'est la sagesse derrière cela. Et il est recommandé de la pratiquer le septième jour après la naissance. C'est-à-dire qu'on prend en compte le premier jour. Car cela permet une guérison plus rapide et permet à l'enfant de grandir dans un bon état. Donc c'est ça la sagesse. Troisièmement, il nous dit « قَسُ الشَّارِبِ وَإِحْفَاءُ » وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. Troisièmement, le fait de tailler la moustache et de l'égaliser. Et il s'agit, cela consiste à tailler considérablement la moustache, du fait qu'il y a dans cela une beauté et un embellissement et une propreté et aussi une distinction et une différence avec les mécréants. Et des hadiths ont été rapportés qui incitent à la tailler et à laisser pousser la barbe, à la laisser longue et à l'honorer, comme cela a été rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la présence de la barbe est un signe de beauté et de virilité. Cependant, beaucoup de gens ont inversé la situation à notre époque, laissant pousser leurs moustaches et rasant leur barbe, où la taille et la diminue considérablement. Et tout cela est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux ordres imposés, ni aux ordres qui imposent de la laisser pousser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jazzu shawarib wa arkhu al-luha wa khalifu al-majus » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. C'est-à-dire, taillez vos moustaches, laissez pousser vos barbes et distinguez-vous des Majus, des adorateurs du feu. Et il a été rapporté également, d'après Abi Hurayra radiallahu anhu, que deux messagers de Kisra se sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que leurs moustaches étaient longues et que leurs joues étaient rasées. Il les a blâmés et ensuite il a dit « Malheur à vous, qui vous a ordonné cela ?» Alors le prophète, ils ont dit « C'est notre Seigneur » et il voulait dire par cela « Kisra ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Moi, mon Seigneur m'a plutôt ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. » Ensuite, il y a quoi concernant le fait de laisser pousser la barbe. Ibn Hazm, rahimahullah, a dit « Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de raser l'ensemble de la barbe. » Et il dit ici l'ensemble de la barbe. Pourquoi, il y a quoi? Car la majorité des savants sont d'avis qu'il est permis d'enlever ce qui dépasse du poignet. C'est-à-dire ici, ce qui dépasse du poignet, c'est permis de l'enlever, comme cela a été rapporté d'un nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait de la raser, il n'y a aucune divergence entre les savants dans cela. Même si cela a été rapporté parmi les mutaakhirun de Shafi'iyya, dès qu'ils sont venus bien après le Shafi'i, ils ont essayé un peu de rapporter des choses dans ça, ceci dit c'est très faible. Il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas de divergence concernant cela, c'est-à-dire le fait de raser la barbe. Sur l'interdiction de raser la barbe. Et les quatre écoles sont d'accord sur le fait qu'il était interdit de raser la barbe. L'imam al-Shafi'i, l'imam al-Hanafi, l'imam Abu Hanifa et l'Ahnaf ont dit, comme ça a été rapporté par Ibn Abidin al-Hanafi, il dit, quant au fait d'enlever de la barbe ce qui ne dépasse pas du poing, comme le font certains occidentaux, et certains hommes efféminés, ceci n'a été autorisé par personne. Ça, c'est pas moi qui le dis, Aïkhoa. Ça, c'est chez l'Ahnaf. Ensuite, chez les Malikites, les Malikiyah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ibn Abd al-Bar, l'imam Ibn Abd al-Bar a dit, rahimahullah, il est interdit de raser la barbe et ne le fait que les efféminés parmi les hommes. Wallah, c'est pas moi, Aïkhoa. Ça, c'est Ibn Abd al-Bar al-Maliki. Et l'érudit Ad-Dusuqi a dit, il est interdit à l'individu de se raser la barbe et la moustache. Et il faut sanctionner ceux qui le font. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit, il n'est pas permis de raser la barbe, ni de l'épiler, ni de la tailler. Chez al-Shafi'iyya, il a été rapporté, comme dans Ibn al-Rif'a, dans sa hachia, il dit, dans sa hachia d'al-Kafiyya, il dit, l'imam al-Shafi'i a certes énoncé dans son kitab al-Umm l'interdiction de se raser la barbe. Et chez al-Hanabila, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyata, rahimahullah, a dit, il est interdit de se raser la barbe. Il dit aussi, rahimahullah, il est interdit de se raser la barbe en raison d'un hadith authentique et personne ne l'a autorisé. Ça, c'est l'avis de quatre madhahib. Ensuite, l'imam al-Albani, rahimahullah, a dit, Il y a dans le fait de se raser la barbe plusieurs péchés. Et ici on parle de se raser, c'est-à-dire à blanc. On ne parle pas de ceux qui taillent leur barbe. Et ça n'a pas le même jugement, jamais. Ici on parle de celui qui rase à blanc. C'est de ça qu'on parle. Il dit, le premier péché, c'est qu'il y a un changement de la création d'Allah. Comme Allah dit dans Surat An-Nisa, traduction du traduction du sens rapproché, je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Il y a donc une obéissance au shaytan et une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième péché, une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Traduction du sens rapproché: et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le précipiterons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Le troisième péché, il y a une ressemblance au kuffar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous avons mentionné dans le hadith précédent: différenciez-vous des polythéistes, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Et le quatrième péché, il y a une ressemblance aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. والرابع تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا يتركها حتى تطول والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليل لأعداء الله. Il nous dit ici, quatrièmement, donc la quatrième caractéristique, c'est le fait de couper les ongles. Et cela consiste à couper, donc à les couper afin de ne pas les laisser pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent longs. Et le fait de les couper les rend plus beaux et élimine les saletés qui s'accumulent en dessous des ongles. Et il y a certains musulmans à cette époque qui contredisent cela, qui contredisent cette pratique prophétique en laissant pousser leurs ongles ou l'ongle d'un doigt particulier de leur main. Et wallahi, ça c'est ce qu'on voyait en Égypte. Quand on était en Égypte, on voyait, subhanallah, ils laissaient l'ongle du petit doigt. Ils avaient les doigts, qu'ils étaient tous coupés, tous les ongles de leurs doigts étaient coupés, sauf l'ongle du petit doigt, il était, mashallah, l'ombec, il arrivait, subhanallah. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Allah Moustan. Voilà, je ne sais pas d'où ils tirent ça, subhanallah. Ceci dit, ça ne fait pas partie des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela provient de l'embellissement de Shaytan et de l'imitation des ennemis d'Allah. والخامس نتف اللبط أي إزالة الشعر النابت فيه فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. Ici il nous dit le cinquième, c'est quoi? L'épilation des aisselles. Et regardez, il y a une fois Cheikh Abdelrazak al-Badr Hafidhahullah, je ne me souviens plus en quel livre. Ceci dit, il avait dit, ici, le cheikh, qu'est-ce qui a été mentionné dans le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le rasage. Parce que comme on a vu ici, c'est le fait de raser les poils pubiens. Mais ici, il utilise le fait de s'épiler les aisselles. Et ici, ça ne veut pas dire que le fait de raser les aisselles, c'est interdit. Mais il est préférable de les épiler. Et le fait d'épiler et se raser, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté que dans la sunna, c'est le fait de les enlever avec ses mains. Subhanallah. Ou bien l'épilation, c'est quoi? C'est le fait de mettre de la cire ou autre. Yanni, c'est quelque chose de connu. On met de la cire et on enlève. Ça, c'est l'épilation. Hein, mais le fait de raser, c'est le fait d'utiliser un rasoir ou un rasoir électrique ou autre. Et donc il est préférable ici de quoi? De suivre ici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il y a toujours une sagesse derrière cela. Et cher Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il a dit qu'il avait vu des sagesses, qu'il y avait des choses qui avaient été écrites sur ça. Et qu'il avait vu des sagesses derrière ça, le fait d'utiliser l'épilation et non le rasage. Mais je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit exactement. Donc ce qui est meilleur ici, c'est quoi? C'est d'épiler les aisselles et non de les raser. Mais le fait de les raser, c'est quoi? Yani, c'est permis et c'est valable. Et ici, il nous dit, car cela contribue à la propreté et élimine les mauvaises odeurs qui peuvent s'accumuler avec la présence de ces poils. Wallahi, ya ikhwa, c'est important. Parfois, ya ikhwa, on rentre au masjid, on veut sortir de là, subhanallah. Tellement que les odeurs, elles sont fortes, elles sont nauséabondes. Voilà, le musulman, il doit être propre. Il doit être propre, il doit être parfumé, il doit sentir bon. Les gens, ils ne doivent pas s'éloigner de lui, subhanallah, ou le fuir. Ça, c'est une moussiba. Imaginez-vous maintenant les non-musulmans. La première chose qu'ils voient, s'ils vous voient comme ça, c'est quoi? S'ils vous voient maintenant, vous sentez mauvais à 10 km, vous croyez vraiment que ce non-musulman, il va accepter ce que vous allez dire, même si maintenant on va chez quelqu'un qui a des ambiguïtés. Imaginez-vous maintenant, vous voyez une personne, je ne sais pas moi, il fait une chose, bah il fait une bid'a, ou bien il fait un péché, ou vous voulez aller le conseiller. Et toi, Akhil Karim, masha'Allah, tu sens, subhanallah, et tu crois vraiment qu'il voudra prendre ta parole? La badane, quoi. Tu vois, c'est important de prendre soin de soi, de sentir bon, même pour sa femme à la maison, pour ses enfants, pour... Allahu musta'an. Et moi, je me rappelle à Jami'a, le prof, il faisait beaucoup de rappels sur la propreté, Allahu musta'an. Parce que il faisait chaud en plus. Il faisait chaud et lorsque la personne ne prend pas soin de lui, ça peut faire des catastrophes dans la classe. Wallahu musta'an. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en pratique. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné toutes ces choses-là. S'il a mentionné toutes ces choses-là, il faut les mettre en application. C'est pour nous être propres, pour qu'on sente bon, pour qu'on soit accepté aussi, pour que les gens ne s'éloignent pas de nous, et pour qu'ils acceptent le message avec lequel on va venir. Voilà, c'est des choses que les gens y regardent, les croient. Et c'est des choses que j'ai déjà entendues, moi, de ma famille, qui, eux, ne sont pas musulmans, beaucoup d'entre eux. Ils disent, non, mais beaucoup de musulmans, ils ne sont pas propres. Ils sentent mauvais, si, ça... Et voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut faire attention à ces choses-là. Allahu musta'an. Ensuite, il nous dit, l'auteur, telle est notre noble religion, qui nous ordonne d'adopter ces caractéristiques, du fait qu'il y a dans celle-ci un embellissement et une propreté, afin que le musulman soit toujours dans la meilleure des conditions, en s'éloignant des imitations des infidèles et des ignorants, tout en étant fier de sa religion, obéissant à son Seigneur et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut également ajouter à ces caractéristiques ce qui a été rapporté dans le hadith de Aisha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 10 pratiques font partie de la sainte nature. Se tailler la moustache, se laisser pousser la barbe, se brosser les dents avec le siwak, se laver les narines par aspiration d'eau et son rejet, se couper les ongles, se laver les plis des doigts, s'épiler les poils des aisselles, se raser les poils pubiens et se laver les parties intimes. » Et l'un des narrateurs de ce hadith a dit « J'ai oublié le 10e, à moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche, c'est-à-dire al-madmada. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et la dernière mas'ala, c'est quelle est la limite de temps qu'il ne faut pas dépasser. Et il a été rapporté d'après Anas ibn Malikin radiallahu an, concernant le fait de tailler la moustache, de se couper les ongles, de se raser les poils pubiens et de s'épiler les aisselles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis comme limite de temps de ne pas dépasser 40 jours. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani dans sa correction de Sunan al-Tirmidhi. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khayran.